Europe 1. Sur Europe 1,
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Bonjour à tous, bienvenue dans Historiquement Vôtre, l'émission qui chaque après-midi réunit trois personnages historiques dans un shaker de bonne humeur agité par le sosie de Tom Cruise dans Cocktail. Bonjour Stéphane Bern.
Bonjour Mathieu, mais soit vous êtes gentil, là ça m'étonnerait, soit vous êtes mieux.
Soit pire encore, vous êtes ironique.
Mais
c'est vrai que la bonne humeur est toujours au programme d'Historiquement Vôtre, l'émission qui vous raconte l'histoire sans se la raconter. Au programme justement aujourd'hui, trois personnages qui partageaient avec vous, Mathieu, un point commun. Ils étaient jeunes et génies.
Oui, vous aussi vous maniez l'ironie, Stéphane. Jeune et génie, comme vous y allez, je sais bien que je ne suis plus tout jeune, vous savez.
Oui, mais eux étaient les deux. Je vous raconterai d'abord François-Marie Arouet, le jeune Voltaire, à l'occasion de la série du même nom diffusée sur France 2. Le comédien Thomas Oliveres, qui redonne vie au philosophe et à sa jeunesse, sera avec nous. Puis je vous parlerai d'un autre génie. Jeune aussi, mais génie des mathématiques. Celui-ci, l'anglais Alan Turing, qui fait partie des premiers à avoir développé l'ordinateur. Et pas seulement, vous verrez. Quant à vous, Mathieu, vous évoquerez une figure plus récente, mais qui combine également stupéfiante jeunesse et insolent génie.
Oui, Stéphane, Greta Thunberg, qui n'a pas encore l'âge d'acheter une bière aux États-Unis, mais qui est déjà l'icône écologiste la plus célèbre au monde. Qui est-elle vraiment ? Vit-elle en cohérence avec toutes ses positions militantes ? Ou bien lui arrive-t-il parfois d'oublier le réchauffement climatique et ses problèmes d'émissions de CO2 et de se faire un petit aller-retour Stockholm-Las Vegas pour aller flamber au Bellagio comme Stéphane ? Réponse vers 17h20. En attendant, saluons nos chroniqueurs, deux hommes et une femme.
Ils sont pas reproduits. Ils n'ont pas fait d'enfants.
Pas encore, mais ça ne saurait tarder. Ils sont en tout cas de plus en plus complices. Hein.
Oui. Elle nous entraîne dans l'intimité des grandes ce monde. Clémentine Portier-Kaltenbach.
Oui, bonjour messieurs. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, je suis la seule à avoir remarqué qu'on était en train de zapper complètement la Saint-Valentin, là ou quoi ? Là, vous parlez des jeunes et des génies.
Détrompez-vous, mais... certains ont même fêté la Saint-Valentin en avance. Oui.
Ah, bravo, ça c'est bien, ça c'est bien. Alors, on va fêter l'amour, mais à travers un ménage à trois assez inattendu, parce que très petit bourgeois, celui que constitua Lénine avec sa camarade de lutte, la Krupskaya, mais aussi la très jolie française Inessa Armand. Mmh. Et oui, voyez-vous, on peut brûler pour des idées et n'en être pas moins homme.
Au contraire, il était pour le partage.
Oui, il était communiste. Absolument, exactement.
Avec nous également, Stéphane, David Castello-Lopez. Mmh. Chaque jour, il remonte aux origines d'une invention, d'un objet de notre quotidien, aujourd'hui d'un jeu.
Oui, tout à fait, le mini-golf.
Vous avez des
bons souvenirs de mini-golf ?
Ah oui.
Non, ouais. Des bons noms.
Je crois
non.
Pas.
Non. Les engueulades.
Ah si, c'était rigolo quand on était petit, on jouait beaucoup à ça.
Vous vous énerviez pas, vous ?
On gagnait jamais, il y avait des trucs beaucoup trop difficiles.
Oui, c'est un jeu très frustrant.
Moi, j'ai taquiné beaucoup plus l'invention d'Olivier Pouls.
Ça, vous l'avez bien taquiné.
Ah oui, ça, j'aurais bien consommé, ça.
Bonjour, Olivier.
Oui, bonjour, les amis. Alors, je vais rebondir sur ce que vient de dire Clémentine. Il y a peut-être une manière de sauver votre Saint-Valentin. Vous avez oublié le petit cadeau. Paf, vous allez faire des truffes au chocolat. Et je vous garantis que là, c'est succès total.
Ah, très bien.
Plutôt que d'acheter des Mon Chéri, Stéphane. Oui.
Bah, évidemment.
Mettez-vous en cuisine et créez vos propres truffes.
C'est votre copine qui vous a dit que t'es une truffe.
Oui, elle m'a dit ça aussi. Elle m'a dit ça à l'issue de ce dîner de la Saint-Valentin. Enfin, Stéphane, en 2021, aimer se faire du mal n'est plus tabou. De plus en plus, l'assume au grand jour. Certains vont se faire fouetter dans un donjon SM. D'autres apprécient la douleur plus raffinée d'une humiliation intellectuelle. Vous avez choisi cette option avec le quiz Bern to be alive, le plan maso de Stéphane Bern qui vous invite chaque jour à venir assister à sa punition vers 5h-10. Mais tout de suite, découvrons notre premier personnage du jour qui était à la fois jeune et génial. Stéphane nous raconte les jeunes années de Voltaire.
Europe 1. 16h-18h, historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Le récit.
Nous sommes aux alentours de 1706 au collège jésuite Louis le Grand à Paris. En classe, un certain François-Marie Arouet joue avec sa tabatière au lieu d'écouter. Son enseignant mécontent lui inflige comme punition de composer une poésie que le jeune garçon récite aussitôt. « Adieu, ma pauvre tabatière, adieu, je ne te reverrai plus, ni soins, ni larmes, ni prières ne te rendront à moi, mes efforts sont perdus. Adieu, ma pauvre tabatière, qu'on oppose entre nous une forte barrière, me demander des vers, hélas, je n'en puis plus. Adieu, ma pauvre tabatière. » Les camarades du futur Voltaire sont hilares. On peut imaginer le chahut dans la classe. Le jeune rebelle n'a que 12 ans, mais on sent déjà poindre l'insolence qui participera à son succès. Voltaire est donc né François-Marie Arouet en 1694 à Paris, dans une famille de bourgeois aisés. Tout jeune déjà, il s'impose comme un petit génie. La légende veut qu'à 3 ans seulement, le petit François-Marie est capable de réciter la Moïsade, un texte dénonçant la religion. Apprenant les rudiments de la versification, il s'adonne avec son frère Armand, qui a 9 ans de plus que lui, à des joutes poétiques qui font les délices de la famille. Mais cette complicité entre les deux frères ne durera pas. Une fois adulte, alors que François-Marie prendra le clergé en horreur, Armand deviendra quant à lui un dévot forcené. Leurs rapports seront si peu chaleureux que Voltaire, après sa longue période d'exil en Angleterre, n'informera pas son frère de son retour en France. Quand il est encore jeune adolescent, son père envoie François-Marie étudier au collège parisien Louis le Grand, où il fait l'admiration de ses maîtres. Le jeune élève préfère débattre avec eux plutôt que d'aller en récréation. Avec ses camarades, le petit génie remporte aussi tous les suffrages. Ses traits d'humour mettent les rieurs de son côté et il se lie vite d'amitié avec plusieurs membres de la haute noblesse, un milieu auquel il rêve d'appartenir. À 19 ans, après avoir étudié le droit sur ordre de son père, François-Marie Arouet veut devenir homme de lettres. Grand, maigre, mais ne manquant pas d'allure, il fréquente les salons, où il fait l'apprentissage de la conversation galante, très utile pour séduire les dames. La première à succomber s'appelle Pimpette, mais la mère de la jeune fille ne voit pas cette relation d'un très bon œil. La rupture est brutale. François-Marie se console dans les bras de Suzanne Catherine de Corsambleu de Livry. Elle rêve de faire carrière sur scène et prie François-Marie de lui donner des leçons de diction qui se transforment vite en dialogues amoureux. Les deux amants ne se quittent plus jusqu'à ce que François-Marie trouve Suzanne dans les bras d'un autre. Décidément, François-Marie a bien du mal à retenir ses conquêtes. Et retenu, c'est lui qui va l'être. François-Marie va trop loin en écrivant un épigramme moqueur sur les rapports incestueux que le régent entretiendrait avec sa fille, la duchesse de Berry. En 1717, l'insolent est arrêté. Direction la prison de la Bastille. François-Marie Arouet est privé de contacts humains, mais aussi d'encre et de papier. L'épreuve est pénible. J'appris à m'endurcir contre l'adversité et je me vis un courage que je ne m'attendais pas, écrit-il. Enfin, après presque un an de détention, il est libéré. S'inventant une particule, il se fait désormais appeler Monsieur de Voltaire et se met au travail pour devenir un auteur de premier plan. Le 18 novembre 1718, Voltaire a 24 ans et sa première pièce de théâtre, Œdipe, fait un triomphe, bientôt suivi par la Henriade, un poème épique qui fait de lui l'un des écrivains les plus connus de France. Voltaire devient la coqueluche du microcosme parisien. Le régent, qui n'est pas rancunier, le gratifie d'une pension de 2000 livres. Voltaire lui exprime sa gratitude avec malice. Je remercie votre Altesse royale de continuer à se charger de ma nourriture, mais je la supplie de ne plus se charger de mon logement. Il fait évidemment référence à son précédent séjour à la Bastille. Comme souvent avec Voltaire, tout finit dans un grand éclat de rire. À 30 ans, Voltaire s'est bâti une gloire littéraire qui s'étend bien au-delà des frontières du royaume. Si sa pièce de théâtre Œdipe fait quelques allusions impertinentes à l'intolérance religieuse qui deviendra plus tard la bête noire de Voltaire, la politique et l'engagement philosophique ne sont pas sa priorité. Pour l'instant, il fait avancer sa carrière et sa fortune. Quand le père de Voltaire meurt, lui laissant un beau pécule, il s'empresse de le faire fructifier en se lançant dans les affaires. Des affaires pas toujours très nettes. Ainsi, en 1729, il achète tous les tickets d'une loterie pour en gagner le premier prix. Et ça fonctionne. « Je suis né assez pauvre. J'ai fait toute ma vie un métier de gueux, de barbouilleur de papier. Et cependant, me voilà maintenant avec 2 châteaux, 70 000 livres de rente et 200 000 livres d'argent comptant », écrira-t-il à son banquier vers la fin de sa vie.
Il était content de lui.
Voltaire mène une existence plutôt confortable, mais en 1726, il subit une humiliation qui le marque pour toujours. À l'opéra, le chevalier de Rohan-Chabot, gentilhomme arrogant, appartenant à l'une des plus illustres familles du royaume, se moque du pseudonyme de l'homme de lettres. Faites l'arrogant, Mathieu.
Ça ne va pas être trop dur. Monsieur de Voltaire, Monsieur Arouet, comment vous appelez-vous ?
Voltaire, toujours aussi insolent, répond « Monsieur, mon nom, je le commence, et vous, vous finissez le vôtre ». Ulcéré, il lève sa canne tandis que Voltaire tire l'épée qu'il porte sur lui. Mais on les sépare. Quelques jours plus tard, alors que Voltaire dîne chez son ami, le duc de Sully, on le fait appeler. Je vous lis la suite décrite par Pierre Milza dans son excellente biographie de Voltaire. Il descend pour parler à la personne qu'il a envoyé chercher et se voit entouré par deux ou trois gaillards qui le frappent à coups de gourdin. Rouen, le chevalier que Voltaire avait offensé quelques jours plus tôt, surveille l'opération. Selon certains témoignages, il crie à ses gens « Ne frappez pas sur la tête, il en peut sortir quelque chose de bon ». Puis s'estimant suffisamment vengé, il ordonne de mettre fin à la correction. Humilié, blessé, Voltaire veut obtenir réparation, mais l'homme qu'il a attaqué est un aristocrate puissant. Voltaire, malgré sa notoriété, s'aperçoit bien vite qu'il ne fait alors pas le poids. Les Rouens obtiennent que le bruyant Voltaire soit arrêté. Un comble, n'est-ce pas ? Il est libéré 2 semaines plus tard, à condition qu'il s'exile. Pendant 3 ans, Voltaire séjourne alors en Angleterre, où il a tout le temps nécessaire pour réfléchir à l'iniquité de la justice française. Il en revient à presque 40 ans, avec les lettres philosophiques dans lesquelles il fait l'apologie de la politique anglaise et souligne les faiblesses de la monarchie française. Prudent, il sait que ses écrits pourraient lui valoir un nouveau séjour en prison. Voltaire se retire quelque temps en Lorraine chez sa maîtresse, la mathématicienne et physicienne Émilie du Châtelet, brillante femme de lettres, femme de lumière. Puis, grâce au soutien de la marquise de Pompadour, la maîtresse de Louis XV, Voltaire obtient d'être rappelé à Versailles, où il est nommé historiographe du roi. En faisant son entrée à l'Académie française, Voltaire devient l'homme le plus en vue d'Europe. Il correspond avec tous ceux qui comptent, les philosophes des Lumières, d'Alembert, Diderot, et même ceux qui ne comptent pas, à ses yeux en tout cas. Je parle évidemment de Rousseau, dont les oppositions entre les deux par lettres interposées, et sans s'être jamais rencontrés, sont restées célèbres. Mais Voltaire échange aussi avec des monarques qui se prétendent éclairés. L'impératrice Catherine de Russie ou le roi de Prusse Frédéric II, qui l'invite à séjourner à sa cour. Il est né François-Marie Arouet, il est devenu Voltaire. On le surnomme désormais le roi Voltaire. Un roi qui finira sa vie aussi insolent qu'il l'était adolescent. Alors qu'il agonise, un homme d'église lui demande s'il croit en Jésus-Christ. Voltaire lance avec un dernier trait d'esprit « Au nom de Dieu, monsieur, ne me parlez pas de cet homme. »
Europe 1, historiquement vôtre.
Pour continuer à parler du jeune Voltaire, nous avons le plaisir d'accueillir celui qui lui redonne vie à l'écran, le comédien Thomas Oliveres. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour Thomas Oliveres, vous êtes Voltaire. Voltaire jeune, dans l'excellente mini-série Le jeune Voltaire, diffusée depuis la semaine dernière sur France 2 et dont les 2 derniers épisodes seront diffusés ce soir. On connaît tous Voltaire, mais c'est vrai qu'on connaît moins François-Marie Arouet, le jeune avant Voltaire, que je viens de raconter. Qu'est-ce qui, vous, quand vous avez accepté le rôle, vous a séduit chez lui, Thomas ?
Bah, justement, un personnage que je ne connaissais pas, un personnage voilà plein d'impertinence, de fougue, d'audace, d'orgueil, et c'est vrai que c'est pas l'image qu'on a tout de suite de Voltaire. Voltaire, je le voyais comme tout le monde, vieillissant,
un vieux sage quoi,
voilà, un vieux sage, le Voltaire de Candide.
Et néanmoins, ce qui est vraiment intéressant dans le récit qu'en faisait Stéphane, c'est ce côté, il était orgueilleux, il aurait pu être très déplaisant, mais il était très populaire quand il était dans ses jeunes années au lycée, parce qu'il savait mettre les rieurs de son côté. Il était drôle et ça plaisait finalement, il était populaire en classe.
Il était très populaire, il était plein d'ironie. C'est vrai que, comme vous l'avez dit, d'ailleurs, votre récit est parfait. Je me permets de le dire.
Merci.
Non, mais en tout cas, ça se terminait toujours dans un éclat de rire. Et c'était la force de Voltaire. Il était extrêmement audacieux et impertinent dans tout ce qu'il écrivait.
Mais c'est un Voltaire qui se cherche au début, hein, en François-Marie Arouet, encore inexpérimenté. Au fond, il est guidé par quoi ? C'est la révolte.
Avant toute chose, la gloire. Il ne s'intéresse qu'à ça. Il ne veut qu'être dans les petits papiers des bourgeois et des nantis de l'époque. Il ne veut que ça. Et c'est un jeune homme, on montre un jeune homme qui va à tout prix, il veut à tout prix sortir de sa classe sociale. Et il veut être parmi les grands noms de cette époque.
Il cherche les femmes aussi.
Les femmes, les plaisirs, l'argent. Il a raison.
Il a raison, c'est une bonne morale qu'on peut vous donner, chers auditeurs d'Europe 1.
On continue à parler de nos personnages jeunes et génies, et du jeune Voltaire en particulier, avec notre invité, le comédien Thomas Oliveres, qui incarne le jeune Voltaire sur France 2.
Savez-vous que c'est un bonheur de parler avec vous ?
Un bonheur partagé, monsieur.
Il suffit de vous voir pour désirer vous plaire, et de vous entendre pour que ce désir augmente.
Vous n'êtes qu'un flatteur. Vous êtes bien trop jeune pour vous intéresser à une femme comme moi.
Que vient faire ici mon âge ? Je vous assure.
Trop de ravissantes comédiennes sont à vos pieds pour que je vous croie.
Mais de quoi parlez-vous, marquise ? Regardez mes pieds. Ne sont-ils pas sans attache, libres d'aller où mon cœur soupire ? Ne me fuyez pas. J'en mourrai de chagrin.
Je m'en voudrais d'être la cause d'une si grande perte pour notre littérature.
On vient de vous entendre. Ah oui, ouais, non, mais il est doué. Et en plus, il est, on, enfin, je pense que maintenant, on pensera que c'est la voix du jeune Voltaire.
Bah oui, parce qu'on n'avait jamais, on s'était jamais pensé sur le jeune Voltaire. Donc là, c'est vous à jamais maintenant.
Alors, vous êtes en pleine séduction, évidemment, Thomas, face à la marquise de Bernières, jouée par Valérie Bonneton, qui fait partie avec vous de ce très beau casting, quand même. Hein. On retrouve Christa Terray, Hippolyte Girardot, Bernard Lecoq en Voltaire vieux, pardon de le rappeler, et l'excellente.
Gentil pour lui, Bernard, écoute. Hein.
Mais bon. C'est une famille formidable. Ouais. Et l'excellent Thibaut de Montalembert, qui joue le régent, forcément un débauché. Bon, il y a une question que sous-tend cette série, c'est comment devient-on Voltaire ? Je me permets de vous la poser à mon tour. Comment êtes-vous devenu Voltaire, Thomas ?
Je crois qu'avant tout, je me suis absolument pas posé cette question parce que ça fait peur de se dire comment on va devenir Voltaire. Non, moi je me suis demandé comment j'allais devenir François-Marie Arouet et je me suis surtout posé cette question-là. Et on a beaucoup discuté avec Alain Tasmal, le réalisateur, et de voilà comment réussir à rendre ce personnage moderne et montrer que c'était un jeune de son époque. Évidemment, sur le plateau, je me baladais parfois en me disant. Bon, je suis quand même Voltaire, c'est le cas.
Vous parliez en tant que Voltaire aux assistants, oui. Voltaire a soif.
Non, pas du tout. Non, mais c'est plutôt Alain Tasma qui disait, dis donc, n'oublie pas que t'es Voltaire, n'oublie pas que c'est toi.
Mais vous êtes abonné au Jeune Génie, parce que vous étiez formidable dans Edmond Rostand, enfin voilà, je crois que maintenant tout le monde a compris que vous étiez un formidable comédien.
C'est gentil.
Mais, est-ce que vous jouerez le jeune Rousseau aussi ou...
Non, je peux pas faire ça à Voltaire, non, pas c'est pas possible.
Vous ne serez pas jeune toute votre vie non plus.
Ça va finir par passer, vous allez voir, ça va très vite. Dites-moi, est-ce que vous êtes beaucoup documenté pour le rôle ou au contraire, parce qu'on sait qu'il y a deux écoles chez les acteurs, est-ce que vous avez beaucoup lu
Moi, je suis de cette école-là, je suis de l'école du travail et de. Je sais que par exemple pour Edmond Rostand, j'avais 6 mois, je me suis documenté sur tout ce que je pouvais. Là, je suis arrivé très tard sur ce projet, je suis arrivé quelques semaines, un mois avant, et je me suis surtout focalisé sur le texte, c'est-à-dire apprendre tout ce texte. Et après, j'ai eu la chance d'avoir Alain Tasma avec moi, avec qui j'ai parlé, qui connaît son époque par cœur, qui connaît le personnage par cœur. Il n'y a pas une question auquel il ne peut pas répondre. Et voilà, je lui avais dit quel livre je dois lire, quelle biographie. Il m'a dit, écoute, ne te préoccupe pas de ça. Tout est dans la série. Tout est véridique. On s'est tous documentés de toutes les biographies possibles. Donc voilà, concentre-toi sur le texte. Et évidemment, on a beaucoup parlé ensemble.
Vous avez 30 ans, si je ne m'abuse. Oui. Il faisait quoi, Voltaire, à 30 ans ? Il en était où de son parcours ?
Ah, bah, on a tous l'impression qu'à 30 ans, il était, ça y est, déjà le Voltaire, mais pas du tout.
Pas du tout.
Il était exilé en Angleterre.
C'était la loose, quoi.
Ah, c'était la loose. Il n'avait pas d'argent. Et il est parti en Angleterre à ce moment-là. Et c'est là où, évidemment, l'Angleterre a été un tournant dans sa vie, puisqu'il va prendre conscience des progrès socio-économiques de l'Angleterre du 18e siècle.
Mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il avait déjà fait parler de lui.
Oui, quand même. Évidemment.
Son insolence lui avait coûté cher avant.
Oui, exactement. Oui. C'est pour ça aussi qu'il part en Angleterre. C'est pour ça qu'il en a marre aussi, parce que dès qu'il dit quelque chose, il est embastillé. Et je crois que c'est à ce moment-là où il ose, vous en avez parlé, il ose critiquer le régent.
Mais surtout, il a fait une chose monstrueuse. Vous imaginez, ce n'est pas possible aujourd'hui de dire qu'un père a pu avoir des attouchements sur sa fille.
C'est des choses qui n'existent plus aujourd'hui, heureusement.
Mais c'est vrai que, bon, là, en l'occurrence, c'était faux. Puisqu'on en a parlé, on a parlé de se débaucher grâce à une biographie qui est sortie sur le régent. Mais c'est vrai que c'était... Il s'attaquait au pouvoir lui-même.
De sa vie, il n'a fait que ça. Il n'a fait que s'attaquer au pouvoir, que s'attaquer à l'Église. Et...
Oui, mais c'est une ambivalence, Thomas. Il s'attaquait au pouvoir et en même temps, il rêvait d'en être, d'écrire avec Frédéric II, de correspondre avec Catherine II de Russie.
Justement, c'est la contradiction de ce personnage et c'est ça qui rend ce personnage extrêmement intéressant. C'est plus... Lui, tout ce qu'il veut, c'est s'approcher du roi, être proche de lui. Et plus il s'approche de lui, plus il écrit des récits subversifs et dangereux qui vont le mettre en prison. C'est toute sa contradiction.
Petit point histoire, Stéphane. Expliquez-nous cette histoire de rente, là. Les artistes ou les écrivains avaient une rente du roi qui décidait, qui décrétait selon quels critères
C'est des commandes, en fait. Ils écrivaient, et puis là, Henriade, c'est quoi ? On raconte la glorieuse histoire du roi Henri IV. Et donc, il est devenu historiographe du roi. Mais c'est vrai qu'il courait après les honneurs. Il critiquait la monarchie française, et en même temps, on ne peut pas dire que Catherine II de Russie soit la plus grande démocrate du temps, ni Frédéric II de Prusse, qui fusillait ses soldats après les avoir un peu tripotés.
Bien sûr.
Bah oui,
je sais, mais j'essaie de vous inciter à toujours rentrer dans le détail.
Voilà,
pour
vous, les éditeurs qui ne seraient pas non, au courant. Non, pas de la manière dont les a tués, mais la manière dont les a couchés avec.
Exactement.
Non, ce qui est... Et puis, il y a ce rapport avec la religion. Il y a aussi le dernier mot de Voltaire qu'on dit, c'est le prêtre qui arrive pour lui donner l'extrême onction, qui dit « Renoncez-vous à Satan et à ses œuvres ?» Et Voltaire répond « Mais cette chose tellement drôle, c'est pas le moment de s'en faire un ennemi ?» Et je trouve que tout l'esprit de Voltaire est là, c'est-à-dire à la fois ne pas déplaire et en même temps écrire des choses subversives, comme vous l'avez rappelé, ouais. Thomas.
Est-ce que vous trouvez, Thomas, que notre société un peu muselée avec tout ce politiquement correct aurait besoin d'un Voltaire aujourd'hui ?
Oui, je crois qu'aujourd'hui, Voltaire peut manquer. Pourtant, par exemple, je pense aux réseaux sociaux, alors les gens n'hésitent pas à donner leur avis. Voilà, sous couvert d'anonymat. Mais puis surtout, je crois aujourd'hui, on est dans une époque où on parle un peu sans réfléchir, à l'inverse de Voltaire qui osait dire des choses, mais avant tout, il réfléchissait, il travaillait énormément et il se documentait de tout avant de parler. Mmh. Et aujourd'hui, on est un peu dans le clash, dans l'invective.
Et dans l'immédiateté, surtout.
Et dans l'immédiateté.
Il n'y a pas de recul ni de distance.
Ouais. Non, pas
du
tout.
Vous avez raison, oui. Mais... comment vous voyez la suite de votre carrière? Parce que vous êtes une sorte de jeune Voltaire, vous aussi. Vous avez 30 ans, comme lui.
Mais sauf que vous, c'est pas la loose à 30 ans. Vous êtes plus au top que Voltaire à 30 ans, ça c'est beau.
Comment vous voyez la suite? Vers quel rôle vous aimeriez aller?
Bon, je sais pas, je laisse vraiment l'avenir me le dira.
Souvent, on appelle les acteurs qui ont fait des choses. Vous avez fait des rôles historiques, on risque de vous risquez de recevoir plus de scénarios pour interpréter des personnages historiques.
C'est vrai, mais moi j'adore ça. Donc après, il y a pas de souci. Je vais faire comme Stéphane Bern. Je vais faire que des rôles historiques. Je vais parler que d'histoire. Je suis le représentant de Stéphane Bern dans le cinéma.
C'est flatteur.
Il a dit que c'était super votre récit. Ouais, c'est la première fois qu'un invité dit que votre récit est parfait. Non. Souvent ils disent que c'est bien, mais là il a dit que c'était parfait.
Et lui est un excellent comédien, ça je peux vous le dire.
Mais d'ailleurs, pour travailler le rôle, j'avais vu ce que vous avez fait sur Voltaire bien sûr, c'était intéressant.
Voilà, si vous dites, vous devriez vous travailler la même chose, préparer vos émissions, Mathieu. En tout cas, merci Thomas Oliveres. On vous retrouve ce soir dans la mini-série Le jeune Voltaire, réalisé par Alain Tasma, épisodes 3 et 4 à partir de 21h05 sur France 2. Et les deux premiers épisodes sont toujours disponibles, évidemment, en replay pour ceux qui les auraient ratés sur le site France.tv. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Ici Europe 1.
16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Tous les jours, dès 16h, Historiquement vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter elle. Alors elle nous permet de porter un autre regard sur les grands noms de nos livres d'histoire. J'ai nommé Clémentine Portier-Kaltenbach. Aujourd'hui, Clémentine, nous prenons la direction de la Russie.
Oh non. Vous aussi, Stéphane ? Vous aussi ?
Non, mais c'est la bande de données de
l'Europe. Oui, c'est ça, il n'y a qu'une musique, c'est la musique intitulée Russie. Hein.
Non, mais mettez un discours Poutine au moins.
Mais c'est pas le Kazatchok, non, c'est ça qu'il nous faudrait là. Kaline, Kamaya.
On vous trouvera ça après.
Alors, je vous emmène non seulement en Russie, mais en Sibérie, parce que c'est en Sibérie qu'a été exilé Vladimir Ilitch Ulianov. Est-ce que vous saviez que s'il s'appelle Lénine, c'est à cause du fleuve, la Léna, le fleuve sibérien.
Parfaitement.
Et c'est ce qui lui a donné l'idée de son pseudo. Et il va s'y marier à la va-vite en 1898 avec une militante très, très exaltée, très costaud, Nadejda Konstantinovna Krupskaya, qui a le même âge que lui et qui faisait partie de son groupe politique à Saint-Pétersbourg. Alors, elle est devenue son amie, sa confidente, un peu son double en fait. Elle est au plus haut degré sa camarade de militantisme. Et elle se dit soudée pour jamais à la classe ouvrière. Figurez-vous, pour aller le voir en Sibérie, elle fait quand même 8000 kilomètres en train. On est en 1898. Hein. 8000 kilomètres de train, 3 jours de traîneau. Elle a été autorisée à venir le voir à condition de l'épouser. Parce que dans la Russie tsariste, le concubinage, ça ne fonctionne pas. Pas de concubinage entre déportés. Chez les sociaux-démocrates, normalement, on ne se marie pas. C'est un peu encore comme la lutte ouvrière de nos jours. Le mariage, c'est quand même petit bourgeois. Mais enfin, Lénine a dû accepter de l'épouser parce que ça lui permettait donc de venir lui tenir compagnie dans son exil. Donc, début d'exil pour ce couple, Sibérie, puis Moscou en 1900, puis exil en Suisse. Et La Krupskaya, elle ne vit pas dans l'ombre de Lénine, loin s'en faut. C'est une femme d'une sacrée trempe, rompue à la lutte souterraine, à la clandestinité. C'est elle qui est la fondatrice de Rabotnitsa. Rabotnitsa, ça veut dire femme ouvrière. C'est la plus ancienne revue socialiste russe. Ça existe toujours. C'est un peu comme le L russe. Un siècle après sa fondation, ça fonctionne toujours très, très bien comme journal. Et quand je dis que la Krupskaya a une sacrée trempe, c'est qu'elle souffre de la maladie de Basedow. La maladie de Basedow, c'est une sorte d'hyperthyroïdie qui vous donne un gloître, voyez, une sorte de, qui vous fait gonfler le cou et des troubles comportementaux. Et elle va être opérée de cette maladie à Berne, 3 heures sans anesthésie.
Alors,
voyez,
Stéphane Bern qui l'a opéré, c'est la ville de Berne en Suisse.
Oui.
Hein,
précis.
Hein.
Tout ça pour vous dire qu'elle est belle en plus, la Krupskaya. Elle a un certain charme. Mais c'est pas une femmelette emperlousée. Hein. C'est vraiment son alter ego. Et il débarque. Alors là, l'histoire est plus connue parce que c'est l'histoire parisienne de ce ménage qui débarque à Paris en 1908. Il s'installe rue Marie-Rose avec la mère de la Krupskaya. Ils vivent très, très modestement, quasiment dans la misère. Et c'est là, en 1909, dans un café proche de la Porte d'Orléans à Paris, que Lénine est abordé par une très jolie femme, une bourgeoise très chic et qui est connue dans le quartier pour ses chapeaux surmontés d'une plume rouge. Alors cette femme, elle se nomme Inessa Armand. Elle a 4 ans de moins que Lénine, elle est déjà mère de 5 enfants, née à Paris mais élevée en Russie. Elle s'est mariée à 17 ans avec un riche lainier moscovite d'origine française. Elle est très exaltée, rebelle, elle a planté son mari, elle s'est convertie au marxisme, elle a été plusieurs fois emprisonnée. Elle va financer la création d'une école de formation à Longjumeau. Donc c'est une militante très belle, très exaltée, mère de famille nombreuse, très, très convaincue. Et elle devient l'amie des Ulianov, et tous les deux, alors le ménage aurait pu exploser en plein vol, mais pas du tout, parce que la Krupskaya l'aimait aussi. Elle disait que lorsqu'Inessa paraissait, tout paraissait plus chaud, plus vivant. Vous imaginez bien sûr ce couple des Ulianov, les militants un peu austères, un peu sinistres, et entre dans leur vie cette jeune femme magnifique et joyeuse, et militante aussi. Et Lénine lui-même la décrivait comme une source inépuisable de vie, une ardeur émouvante, un feu crépitant. En plus, elle a des enfants, alors que Lénine et la Krupskaya n'ont pas pu en avoir, donc elle amène un peu d'enfance dans leur vie austère. Alors à un moment, Nadejda se propose de s'effacer. On dit, écoute, tu es amoureux de cette femme, si tu veux, moi je me sacrifie sur l'autel du parti et de l'amour, et pas du tout. Lénine ne veut pas abandonner sa Krupskaya, donc ils vont vivre pendant 6 ans une sorte de ménage à 3, plutôt harmonieux, avec Inessa qui s'installe pas loin de la rue Marie-Rose. Voilà, ils vont souvent dîner les uns chez les autres.
Sympa.
Tout ça est très sympa. Enfin, c'est ça, c'est vraiment un ménage à 3.
Mais c'était vraiment sa maîtresse.
C'était sa maîtresse, bien sûr. Oui. Alors, elle est morte, malheureusement, Inessa, elle meurt en septembre 1920 à Nalchik, dans le nord du Caucase. Elle avait la tuberculose depuis assez longtemps.
Dans le Caucase,
mais ça pas dû s'arranger dans le Caucase, et les Ulianov l'ont fait quand même enterrer au pied du Kremlin. Ça a été une personnalité majeure de leur vie, en tout cas. Donc Lénine a vraiment vécu dans un ménage à trois, mais en 1915, Inessa avait commencé à écrire un bouquin dans lequel elle revendiquait l'amour libre pour les femmes. Alors à ce moment-là, quand elle commence elle montre ces pages-là à Lénine en disant voilà ce que je voudrais publier, elle se fait remonter les bretelles par Lénine, qui lui dit pas du tout, écoute, impossible, faut que tu rayes tout ce passage, c'est pas vraiment un problème prolétarien, l'amour libre, c'est une revendication bourgeoise. Et pourtant, qu'avait-il fait lui-même, sinon pimenter sa vie conjugale, comme le faisaient la plupart des bons bourgeois du 21e siècle, en ayant 2 femmes dans sa vie hein. Alors, comme dirait la chanson, hein, mourir pour des idées, d'accord, mais de mort lente.
Merci beaucoup Clémentine Portier-Gatenbach.
Oui.
Vous avez été fasciné par ce récit, Stéphane.
Oui, beaucoup.
Vous aimez beaucoup Lénine. Et,
oui.
Voilà,
et la Krupskaya. Mais ça fait bizarre de dire la Krupskaya.
C'est un peu vulgaire. Hein.
Oui.
La Krupskaya, ça fait avec son goût.
Mais dites donc, chez les militants, on n'est pas en train de chercher le raffinement, les gars. On cherche l'efficacité.
L'efficacité avant tout, camarade Kaltenbach. Clémentine, vous restez avec nous. Dans un instant, le quiz, cette séquence assez polémique au cours de laquelle Stéphane aurait parfois triché en tentant de chercher les réponses en pianotant sur son smartphone discrètement caché sous la table. On n'a pas de preuves, même si c'est vrai qu'il lui est arrivé de se trahir, par exemple en commençant une phrase par...
Alors, d'après Wikipédia...
Alors Stéphane, grillé là.
16h-18h sur Europe 1,
Historiquement vôtre.
Et c'est l'heure d'ouvrir la séquence la plus polémique de notre émission, le quiz qui oppose Stéphane à Clémentine. Stéphane qui, pour expliquer l'enchaînement étonnant de ses défaites, commence à évoquer l'hypothèse de magouille au niveau de la fabrication des questions, comme il aime à le dire.
Normalement, je ne suis pas complotiste, mais là, je suis obligé.
Jouons à Burn to be Alive. Première question, Stéphane, elle est pour vous. 1981, François Mitterrand est le 4e président de la 5e République. Cette année-là, Stéphane, vous aviez 18 ans. L'âge d'entrer dans la vie professionnelle. Et pourtant, si vous aviez voulu être sage-femme, à cause de votre sexe, vous n'auriez pas pu. Vrai ou faux ?
Oui, je crois que c'est arrivé plus tard.
Oui, et je le crois volontiers, oui. Parce que moi, quand j'ai eu ma première fille, il y avait un sage-homme, justement. Et il était un des tout premiers, me semble-t-il. Et c'était en 93. Donc, tu vois, 81...
Je pense que c'est pas possible en 80.
Donc, votre réponse, c'est vrai ou c'est faux ? Que vous n'auriez pas pu être sage-femme ?
J'aurais pas pu être sage-femme.
Vous avez gagné !
Et oui, Stéphane Bern en aurait rêvé, mais il n'aurait pas pu être sage-femme. En 1981, le métier de sage-femme n'a été ouvert aux hommes qu'en 1982, grâce à une directive européenne sur l'égalité d'accès à l'emploi, luttant contre la discrimination sexuelle à l'embauche.
Oui, vous savez, en 67, les femmes n'avaient pas le droit de pénétrer dans l'enceinte de la bourse. Donc il y a des
Je sais pas si c'est un jeu de mots ou si c'est une contrepétrie, mais...
Bon, avec les
cordons
de la bourse,
moi,
c'est probable.
Jamais, je cherchais pas.
Bien sûr, bien sûr. Question numéro 2 pour vous, Clément. Qui a dit... Il importe, dans un siècle où les femmes oublient le sentiment de leur infériorité, de leur rappeler avec franchise la soumission qu'elles doivent à l'homme qui va devenir l'arbitre de leur destinée. Rousseau, Napoléon ou Pascal Praud ?
Écoutez, je pense que les trois auraient pu à peu près dire ça. Peut-être moins Rousseau. Je pense que Napoléon, hélas, est tout à fait capable d'avoir dit une chose pareille.
Vous avez gagné.
Et oui, Napoléon que vous aimez tant, Stéphane. Oh, il a dit ça. On l'a compris au cours de toutes ces émissions que vous aviez une certaine admiration pour l'empereur. Il a dit ça à l'époque où il a rédigé le Code civil qui, dans sa première mouture, considérait la femme comme une mineure qui ne pouvait pas travailler, ni faire des papiers, ni passer des examens sans son mari. Rousseau lui a dit « L'amour a été inventé par les femmes pour permettre à ce sexe de dominer alors qu'il était fait pour obéir. » C'est dit,
oui, c'est pas
les
mieux.
Pendules sont remises
enfin,
à l'heure.
Quand on sait qu'il aimait se faire administrer la fessée.
Ah oui, c'est vrai.
Alors, les de Rousseau sur les femmes. Et qu'il a quand même passé sa vie avec une harangère qui le dominait absolument. Donc là,
mais
vraiment,
justement, c'était un ressentiment. Question numéro 3 pour vous, Stéphane. Au 15e et 16e siècle, la conquête de l'Amérique du Sud a refroidi la Terre de 0,15 degrés Celsius. Vrai ou faux ? Oh, le regard ! Le regard, là j'ai l'impression de voir les vaches normandes qu'il y a dans le plein face de chez moi, Henri, qui, quand elle me voit passer, le même.
Ben oui.
Alors, la même vide
dans votre regard.
Écoutez, ça a peut-être refroidi les populations.
Ça a bien refroidi, je vous confirme.
Les Amérindiens, ils ont été refroidis.
Ah,
oui, c'est tout gelé après. Mais la Terre, pourquoi voulez-vous que la Terre fût refroidie ?
C'est absurde. En plus, on n'avait pas les éléments de mesure pour pouvoir en juger. Déjà, on était obligé de faire des calculs alambiqués pour connaître les températures.
Mais cette question, s'il y a cette question, c'est que...
En quoi les conquistadors auraient-ils fait refroidir la planète et le continent sud-américain en allant le conquérir ? C'est pas trois caravelles qui traversent l'Atlantique qui font refroidir la température locale ?
Oui, ça me paraît tout à fait absurde. Je dirais non, non, c'est pas possible.
Vous avez perdu.
Et pourtant, les conquistadors étaient un peu les Greta Thunberg de l'époque, puisque en allant là-bas, ils ont fait baisser la température de la Terre. Ce sont des géographes britanniques de l'université de Leeds qui l'affirment. À partir de 1492, avec l'arrivée des colons, les populations amérindiennes ont été massacrées, vous l'avez rappelé Stéphane, réduites en esclavage ou décimées par les maladies de l'Ancien Monde. Résultat, l'équivalent de la surface de la France a été reboisé par la végétation tropicale qui capta du CO2, faisant ainsi redescendre la température terrestre, Stéphane. Et oui, mais vous auriez pu trouver...
Le nombre de bûchers de l'Inquisition, ça a dû faire remonter.
À mon avis, il y a eu une compensation
carbone
entre Torquemada et Cortés.
Et puis, vous-même, vous l'avez dit, ce sont des historiens, enfin géographes de Leeds qui croient, qui prétendent.
Depuis qu'il y a eu le Brexit, on n'apportait plus aucun crédit.
Une notoriété très vaine.
Oui, ah ben ça c'est sûr, mais au moins on aura parlé d'eux aujourd'hui dans le quiz, ces universitaires de Leeds. Question numéro 4 pour vous, Clémentine. La pyramide de Kukulcan, qui est l'un des monuments mexicains précolombiens les plus connus. Eh bien, Hergé s'en est inspiré pour dessiner la pyramide dans l'album Tintin et les Picaros. Si vous tapez des mains en bas des marches de l'escalier, ça reproduit le cri d'un oiseau sacré, le Quetzal. Vrai ou faux?
Ah oui, c'est ça, c'est tout à fait exact.
Oui. Vous le savez?
Oui, moi aussi.
Vous l'anti... Vous...
Non, ça me dit tout à fait quelque chose.
Vous avez... gagné!
C'est une excellente réponse. Et c'était voulu. La pyramide a été construite pour provoquer une diffraction du son. Écoutez. Incroyable! Oh oui, moi je trouve ça bien foutu.
Vous devriez en faire votre sonnerie téléphonique, Mathieu.
Ah oui, c'est une bonne idée, pourquoi pas.
Et c'est une victoire, mais vraiment sans faille de...
Oui, mais malheureusement, on me signale en régie que non, puisque la première question, Stéphane, valait double. Et donc, nous sommes dans une situation d'égalité totale. Nous allons procéder à la dernière question, Stéphane.
Ah, c'est drôle.
Et oui, c'est comme
pour
ça.
Pour une fois que ça me repêche.
C'est moche, mais la règle a changé en cours de route. Ce sont des choses qui arrivent dans le quiz, vous connaissez.
Dans la vie,
Dans la vie aussi, il y a plein de pièges. Comme
plein
ça,
de pièges surprises et des règles qui changent.
Et des règles qui changent en cours de jeu. Question numéro 5 pour vous deux. Alors attention, c'est la question de rapidité. Il faut me donner la bonne réponse le plus rapidement possible. Si je vous dis Herr Dapfel, vous allez peut-être me répondre à vos souhaits. Et vous auriez tort, car c'est tout autre chose. Mais quoi? Trois propositions. Je rappelle le mot. Herr Dapfel. Un, c'est une race de dauphins d'eau douce qui s'est éteinte l'année dernière. Il n'y a plus de dauphins d'eau douce. Deux, c'est un globe terrestre construit avant la découverte de l'Amérique. Ou trois, c'est une insulte en visigoth qui veut dire « fils de rien ».
Moi, je dirais deux.
Ah, deux. Elle a dit
Apple,
avant
c'est la pomme, donc ce qui me fait plus penser à ça, c'est le globe terrestre.
Moi, j'aurais dit betterave, parce que c'est...
Herr Dapfel, pomme de terre, ou c'est pomme de terre.
Oui. Mais... Pourquoi j'aurais dit betterave, vous?
Herd, c'est la terre.
Herr Dapfel, c'est pomme de terre.
Pomme de terre.
Enfin, c'est kartoffel,
c'est kartoffel.
Mais pourquoi avec vous, l'accent allemand est toujours l'imitation de Karl Lagerfeld? Il ne peut pas y avoir un accent allemand neutre, c'est toujours, on entend toujours Karl.
Oui, mais c'est mieux que quand je parle allemand.
C'est mieux.
Vous pensez à Karl qu'un autre Kaiser.
Oui, bien plus, c'est mieux. Écoutez, c'est une bonne réponse. Vous avez tous les deux donné la bonne réponse. Et là, Stéphane, Clémentine a été plus rapide que vous. Oui. On peut donc dire qu'elle vous vole votre victoire dans le quiz aujourd'hui. C'est un globe terrestre qui a été fabriqué en 1492, donc avant la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb. C'est le plus vieux globe terrestre encore conservé. Il est dans un musée à Nuremberg. Herr Dapfel signifie globe terrestre en allemand.
C'est marrant, c'est aussi littéralement pomme de terre.
Hein. Ouais. C'est drôle.
Eh bien voilà, Stéphane, vous avez été spolié.
Une fois de plus. Rappelez-moi qu'il y a eu deux points sur une question idiote à laquelle il n'a pas répondu.
Ok.
Écoutez, vous vous arrangez.
De toute façon,
la victoire revient à Clémentine.
On a compris que tout ça, c'était pure fumisterie. Bravo Clémentine.
Merci.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Vous écoutez Historiquement vôtre, l'émission qui chaque après-midi vous raconte l'histoire en essayant de ne pas se la raconter, je dis en essayant parce que je co-présente cette émission avec Mathieu Noël, dont l'humilité et la discrétion ne sont pas les qualités premières, il n'y a qu'à voir sa voiture.
Vous pensez que je compense quelque chose, Stéphane? Peut-être le fait de n'être plus ni un jeune, ni un génie, comme nos personnages du jour?
Peut-être, Mathieu, peut-être. Quoi qu'il en soit, après Voltaire, éclatant de génie dès sa prime jeunesse, je vais vous parler de l'inventeur de l'ordinateur moderne, qui a permis de décoder les communications des Allemands durant la Deuxième Guerre mondiale, le mathématicien anglais Alan Turing. De votre côté, Mathieu, vous essayerez de trouver du génie à la jeune génération?
Oui, Stéphane, et j'y arriverai. Je vais vous brosser le portrait à 99% vrai, bien sûr, de cette jeune militante écolo qui, je le sais, vous bouscule dans vos certitudes quand vous faites Lyon-Paris en Boeing ou Tiron-Gardet-Château, Tiron-Gardet-Centre en Hummer. Qui est vraiment Greta Thunberg? Réponse dans quelques minutes.
Oh, sans oublier évidemment nos excellentes chroniques, David Castello-Lopez qui nous raconte les origines d'un phénomène, d'un jeu, d'une invention. Aujourd'hui, c'est le mini-golf,
qui est à la fois très amusant et très frustrant.
Très énervant, le mini-golf. Ouais. Et souvent des scènes de ménage. Dans les mini-golfs. Olivier Pouls est avec nous également pour réjouir nos papilles. Chaque jour, l'histoire d'une recette. Aujourd'hui, les truffes au chocolat, Olivier.
Bah oui, croyez-moi, il en fallait du génie pour inventer cette recette. Et vous le verrez, elle est aussi arrivée un petit peu par hasard, celle-là. Mais en tout cas, depuis un peu plus d'un siècle, c'est devenu un des grands classiques de la gourmandise.
Vous nous donnerez la recette. On peut faire les truffes soi-même au chocolat ou c'est très compliqué?
Ah non, mais c'est hyper simple et inratable. Ah bon, même pour vous, il faut encore
mais
Mathieu.
Non, mais c'est inratable.
Très bien, eh bien, on économisera en les faisant soi-même. Le mot de la fin, c'est évidemment Stéphane Bern qui l'aura. Chaque jour, l'histoire d'une expression. Aujourd'hui, Stéphane.
Oui, on dit toujours l'habit fait pas le moine. Ben, vous allez voir, on va apprendre plein d'informations étonnantes à propos de ce proverbe, de cet adage.
Ouais, à mon avis, ça remonte au Moyen-Âge, au monde.
Au-delà.
Au-delà. Mais tout de suite, découvrons notre deuxième jeune et génie de l'histoire, un génie de l'informatique qui a permis aux alliés de triompher des nazis. Stéphane Bern nous raconte Alan Turing.
Europe 1, 16h-18h, historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Le récit.
Oui, partons sur les traces d'un génie dont les professeurs de collège croyaient pourtant peu en son talent. À 14 ans, son bulletin scolaire déplore son niveau faible en lecture et un travail désordonné. Le professeur de mathématiques d'Alan Turing regrette que ce dernier n'arrive pas, je cite, « à coucher sur le papier des solutions de manière propre, compréhensible et lisible ». Son professeur de chimie note quant à lui que M. Turing a certes réalisé quelques bons travaux, mais qu'il devrait se rappeler que l'université de Cambridge requiert des connaissances solides au lieu d'idées vagues. Un comble quand on pense qu'aujourd'hui l'équivalent du prix Nobel d'informatique porte son nom ou que le magazine américain Time l'a classé parmi les 100 personnages clés du XXe siècle. Mais revenons, si vous le voulez bien, aux origines. Alan Turing voit le jour à Londres en 1912. Peu après sa naissance, son père, administrateur colonial, regagne son poste en Inde où il est rapidement rejoint par son épouse qui laisse ses enfants en Grande-Bretagne. Les deux fils Turing voient leurs parents de manière occasionnelle, ce qui traumatise le petit Alan. Introverti, l'enfant bégaye et a du mal à s'exprimer. À 14 ans, il rejoint l'internat de la très stricte Sherborne Grammar School. Le jeune garçon se fait remarquer par son attitude négligée et ses résultats médiocres. Heureusement, il trouve du réconfort dans les sciences qui le passionnent. Pendant son temps libre, il étudie seul les textes d'Einstein ou développe des calculs très complexes qui impressionnent son professeur de mathématiques. Ce dernier plaide d'ailleurs sa cause auprès du directeur de l'école, ce qui le sauve du redoublement. Turing poursuit des études de mathématiques au King's College de Cambridge. Obsédé par les sciences, le jeune homme solitaire a peu de hobbies, si ce n'est la course à pied. Tous ceux qui ont connu Turing ont remarqué que sa prodigalité scientifique allait de pair avec sa pratique sportive. Plus il courait, plus il pensait, et réciproquement, écrit Laurent Lemire dans sa biographie d'Alan Turing. C'est d'ailleurs au cours d'un de ses footings quasi quotidiens, un après-midi de l'été 1935, que Turing a la révélation de sa vie. C'est, dit-on, allongé dans un pré et reprenant son souffle, qu'il imagine une machine pensante capable de calculer à la place des hommes. Ça vous dit quelque chose? Le mathématicien vient tout simplement de théoriser le concept de l'ordinateur qu'on surnommera la machine de Turing jusque dans les années 1950. Mais pour l'instant, Alan Turing n'a que 24 ans. Rejoignant les rangs de Princeton aux États-Unis, il s'impose comme un chercheur exceptionnel, si bien que l'université veut l'embaucher. Mais le chercheur préfère rentrer en Angleterre. Nous sommes en 1938. Les menaces d'un conflit avec l'Allemagne se précisent. Alan Turing est recruté par le service britannique responsable du déchiffrage des communications étrangères, le Government Code and Thiefer School, localisé près d'Oxford.
Et vous avez réussi à le dire quasiment avec le bon accent, Stéphane.
C'est très difficile, je le sais, c'était un effort. Alan Turing, qui a un petit quelque chose de savant fou, se retrouve entouré de militaires et de fonctionnaires avec qui il est en complet décalage. Son pantalon tient avec des bouts de ficelle. Il pose des questions mais n'écoute pas les réponses. Plus étonnante encore, il attache sa tasse de thé au tuyau du radiateur à l'aide d'un cadenas dont il oublie fréquemment la combinaison. Il porte aussi un masque à gaz lors de ses balades à vélo pour se protéger du rhume des foins. Se passionnant pour le tir, Alan Turing s'enrôle dans une section d'infanterie de la milice de Bletchley Park. À la question « Est-il bien entendu qu'en vous enrôlant dans la milice, vous vous soumettez à la loi militaire ?» Il répond non. Il devient pourtant un véritable tireur d'élite avant de cesser d'aller aux exercices. Quand le colonel furieux vient lui demander des comptes, Alan Turing lui rétorque tout simplement « Bah, il n'est pas soldat ». Ce comportement farfelu ne lui fait pas oublier ce pourquoi le gouvernement l'a engagé. Décrypter le code Enigma, utilisé par les nazis pour rendre leur message radio incompréhensible par les Anglais. Entouré d'autres savants, Alan Turing met au point ce qu'on appelle la bombe de Turing. Chose incroyable, cette machine qui fait un fracas épouvantable met seulement quelques heures à décrypter les communications entre l'état-major allemand et des sous-marins de l'Atlantique. Avec son décodeur, on peut dire qu'Alan Turing contribue à la chute du régime nazi, sauvant la vie de milliers de personnes. L'un de ses amis prétend même que sans lui, la Seconde Guerre mondiale aurait été perdue. Une fois la paix revenue, Alan Turing se plonge dans des recherches sur l'intelligence artificielle. Il en est convaincu, un jour, il sera possible d'inventer des robots pensants. Dans un ouvrage intitulé « Intelligent Machinery », il établit des concepts scientifiques encore utilisés de nos jours. Hélas, bientôt le chercheur est rattrapé par sa vie privée. Alan Turing est homosexuel. Or, dans l'Angleterre de cette époque, l'homosexualité est considérée comme un crime sévèrement puni. Turing va s'en rendre compte à ses dépens. En 1952, sa maison est cambriolée et il porte plainte. Arrêté, le cambrioleur dénonce son complice, un ex-amant occasionnel d'Alan Turing, qui, fatigué de se cacher, ne nie pas cette ancienne relation. Le mathématicien est inculpé pour indécence et perversion sexuelle. On lui laisse le choix, si je puis dire, entre une peine de prison ou un traitement aux hormones féminines revenant à une castration chimique. Le mathématicien opte pour la deuxième solution qui le rend impuissant. Le traitement dure un an, avec de terribles effets secondaires. Ses seins se mettent à pousser, ses muscles fondent, sa silhouette de sportif se trouve irrémédiablement déformée. Alan Turing est profondément démoralisé. Alors qu'il avait été consacré en devenant membre de l'Académie nationale des sciences du Royaume-Uni, le voilà dorénavant écarté des plus grands projets scientifiques. Le 7 juin 1954, tel Blanche-Neige chez Disney qui, paraît-il, le fascinait, il croque dans une pomme qu'il a lui-même imbibée de cyanure. Sa femme de ménage le découvre mort, allongé sur son lit. Alan Turing avait 41 ans. Jeune et génie pour l'éternité. Cette pomme croquée, dont il reste une moitié sur la table de nuit, va participer à son mythe puisqu'on prétend que le logo de la marque Apple est un hommage au génial mathématicien. Mais il faudra attendre 55 ans pour une réhabilitation posthume. En 2009, le Premier ministre anglais Gordon Brown présente ses excuses pour le traitement effroyable que son pays a réservé à l'un des plus grands scientifiques de son histoire. Effroyable, effectivement.
Europe 1, historiquement vôtre.
L'effroyable qu'il aurait fallu tout ce temps aussi, Stéphane. Pour parler d'Alan Turing, nous avons le plaisir d'accueillir un autre mathématicien plus contemporain, Cédric Villani, bonjour.
Bonjour.
Cédric Villani, vous avez été lauréat de la prestigieuse médaille Fields en 2010 et vous êtes intéressé à Alan Turing et à trois autres génies de l'histoire dans une BD illustrée par Baudouin, Les Rêveurs Lunaires, coédité par Gallimard et Grasset. Alan Turing a manqué cruellement de reconnaissance de son vivant. Et c'est pour conjurer cette injustice que vous avez pris la plume ?
Oui, Stéphane Baird, ça fait partie de tout ce mythe, dans le bon sens du terme, autour d'Alan Turing. Personnellement, je l'ai découvert quand j'étais adolescent, dans les années 80, dans les ouvrages de Douglas Hofstadter. Les années 80, c'est l'époque d'une première renaissance pour Alan Turing. Le remarquable biographie de Andrew Hodges venait de paraître. Encore aujourd'hui, on considère ça comme l'une des plus grandes biographies scientifiques jamais écrites. Et quand je lisais ça sous la plume vulgarisée de Douglas Hofstadter, j'étais fasciné. Comment c'était possible ? Un mathématicien avec un tel rôle si important dans notre histoire et dont je n'avais jamais entendu parler. Ouais. Personne n'avait entendu parler de lui dans le grand public dans les années 80.
Mais il a été bien réhabilité parce qu'il y a eu une pièce de Benoît Solès.
Il y a eu un film.
Un film, évidemment. Puis moi, j'ai vu la pièce La Machine de Turing.
La belle pièce de Benoît Solès, absolument. Que je vous recommande, n'allez pas voir le film hollywoodien, il distord la réalité de façon extraordinaire. Mais la pièce est excellente. Et le livre est extraordinaire.
Et alors, dans la BD, vous le présentez comme un affranchi. En quoi c'était un affranchi, Alan Turing ?
Affranchi en plusieurs sens. D'abord, toute sa vie, parce que son extrême franchise, sa liberté de ton. Mais en même temps, affranchi, je le représente dans cette bande dessinée, on imagine avec Edmond Baudouin sa dernière soirée, le moment où il se suicide et où il revient sur toute sa vie, le moment où il s'affranchit aussi, parce que la vérité, et c'est très bien décrit dans le livre de Hodges, c'est la façon dont toute la société lui pesait. Les conventions, la bien-pensance, son procès mis en scène, un universitaire homosexuel, homosexuel, peut-être un traître. Lui qui avait toujours eu, au contraire, un code d'honneur extraordinairement fort, lui qui n'avait pas dit un mot sur ses activités secrètes à Bletchley Park, le voilà prisonnier d'une injustice complète. Son dernier acte, tragique, son suicide l'a franchi.
Et justement, quel rôle il a joué, Cédric Villani, dans votre construction en tant que mathématicien? Est-ce que, d'une certaine manière, vous considérez aussi comme un de ses héritiers? Parce que vous aussi, vous êtes un affranchi.
C'est en tout cas l'un de mes héros scientifiques, c'est sûr. Dans le début des années 2000, à l'époque où c'était toute une aventure d'avoir sa page web, sur ma page web, j'avais mis mes 5 héros scientifiques et Alan Turing en faisait partie. Et j'insistais non seulement sur son rôle dans la société, son rôle dans l'histoire, mais aussi ses intérêts scientifiques avec un goût pour les probabilités, pour les équations et dérivées partielles. Il faisait partie de ces gens qui ont développé les ordinateurs aussi pour résoudre les problèmes du monde, les problèmes de la physique. La fin de sa vie, il s'est intéressé, il a défriché le domaine de la morphogénèse. C'est un pionnier, cette science qui s'intéresse à l'apparition des formes, pourquoi les mains s'organisent en doigts, pourquoi les organes, comment ça se fait à partir des embryons. Il était fasciné par la vie et la mathématisation, le lien entre mathématiques et biologie. Un pionnier de génie.
Alors justement, on le présente souvent, Stéphane Laffey, comme un pionnier de l'ordinateur. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi il a... Parce que moi, j'ai toujours du mal à comprendre les génies solitaires. C'est-à-dire qu'à l'époque, il est vraiment le seul à imaginer ce que pourrait être un ordinateur. Il est le premier où il s'inscrit dans un réseau de mathématiciens, de penseurs qui découvrent ça.
C'est les deux à la fois, Alan Turing. À la fois, il est dans une communauté, il est issu d'une communauté, en même temps, il est en avance. Il est le premier à avoir la vision de tous les ingrédients. On dit souvent que les trois pères fondateurs de l'informatique, c'est Alan Turing, Claude Shannon et John von Neumann. Mais Turing, parmi ceux-là, est celui qui a le plus tôt la conscience de ce que sera un ordinateur. Ça s'inscrit dans... Il est héritier d'une tradition aussi. Il commence dans la logique, et la logique la plus abstraite peut-être. Quand est-ce qu'un théorème... Qu'est-ce que ça veut dire qu'un théorème est vrai ou faux? Est-ce qu'on peut décider à l'avance qu'un théorème est démontrable ou pas? Ça s'inscrit dans les travaux d'autres comme Church, qui a été son maître à penser à cette époque. Et puis après ces travaux extrêmement théoriques, il se retrouve confronté à des problèmes extrêmement pratiques. Casser un code secret, pressé par le temps, il est passionné de mécanique, et ces deux phases de sa vie, l'une très théorique, l'autre extrêmement pratique, avec la guerre qui lui a fourni cette opportunité, résultant sa synthèse des deux. Un ordinateur, c'est une machine très abstraite, capable de mettre en circuit électronique n'importe quel raisonnement abstrait, et c'est une machine très concrète à la fois.
Et ce qui est amusant, c'est donc dans la BD aussi, vous parlez de l'homme, c'est-à-dire il joue avec son ours en peluche, on voit que peut-être il n'a pas eu d'enfance, en tout cas, c'est un gamin solitaire.
Quelque chose comme ça, oui. J'ai repris le détail, j'ai relu en grand détail la biographie de Andrew Hodges pour préparer ce chapitre de mon ouvrage. Je voulais faire quelque chose pour 2012, c'était le centenaire de la naissance d'Alan Turing, et je tombe sur cette anecdote d'Alan Turing qui avait ce petit ours en peluche qui s'appelait Porgy, qu'il avait acquis pendant ses années d'étudiant, à qui il faisait lire des traités de mécanique quantique. Ça m'a rappelé moi-même l'époque où, étudiant un tout petit peu excentrique, je m'amusais avec mes copains à faire lire à mon propre animal en peluche des traités de mathématiques.
Ah oui.
Là, il y a quelque chose. et j'ai choisi
de... Vous êtes tous bien barrés, quand même.
Bon, si on, excusez-moi, passez-moi le terme, si on déconne pas un peu quand on est étudiant,
oui,
quand est-ce
vrai
qu'on le fait?
C'est vrai. Stéphane, vous n'avez jamais été jeune. Justement, sur Alan Turing, qui présentait comme un génie, vous aussi, quelque part, oui. Vous avez été médaille Fields, vous avez été agrégé très modeste
par rapport...
Oui, vous n'êtes pas... Vous sortez du commun des... Mortel, est-ce que vous avez senti cette différence, vous, dans votre jeunesse, où vous dites vraiment « je suis différent », ça vous éloignait du reste des gens ou pas du tout? Vous avez vécu ça juste comme une chance?
Quand vous avez des intérêts particuliers, les années les plus marquantes dans la carrière d'un mathématicien, c'est certainement le moment de la thèse, le moment où vous mettez à chercher sur des problèmes dont personne ne sait s'ils ont une solution. Je me souviens... quand j'avais 24-25 ans, c'est le moment où vraiment ma thèse trouve son chemin. Ce sont aussi mes premières collaborations. Mon premier article dont je suis vraiment fier, c'est une collaboration avec le mathématicien italien Giuseppe Toscani sur la production d'entropie dans l'équation de Boltzmann qui décrit les gaz rarifiés.
C'est bien ça, Stéphane.
Là, j'ai pas compris tous les mots de la phrase.
Et quels que soient les mots, l'important, c'est la collaboration.
Oui.
Tous mes articles, ou presque, tous mes articles importants, ils ont été écrits en collaboration. Tout est une affaire en sciences de coopération. Même Alan Turing, on le voit comme détaché de la société,
oui,
c'est
vrai
en un sens, mais il était à Hut 8 quand il s'agissait de casser le code secret. Il n'était pas tout seul. Il y avait toute une équipe qui était organisée autour de lui. Il y avait des amitiés solides qui se sont nouées. Toujours un travail d'équipe.
Mais il y a une chose assez injuste, en fait. C'est la place de la science dans l'histoire. C'est-à-dire qu'on parle toujours d'Alan Turing comme celui qui est à l'origine de l'informatique et des ordinateurs, mais on oublie la machine à décoder justement la manière dont il a décodé les messages des nazis. Il a changé la face de la Seconde Guerre mondiale.
Incontestablement. On peut argumenter, certaines estimations disent que la guerre aurait pu durer 1 ou 2 ans de plus. Ce qui est sûr, c'est que le débarquement de juin 44 n'aurait pas pu être réalisé à cette époque-là si on n'avait pas eu une façon d'observer les codes de ces terribles sous-marins nazis. Et c'est pas le seul. C'est pour ça que dans cette bande dessinée, Les Rêveurs Lunaires, elle n'est pas que consacrée à Turing. Elle parle de 4 génies qui ont changé l'histoire, qui en coulisses ont joué un rôle majeur dans la Seconde Guerre mondiale. Alors, 3 scientifiques et 1 militaire. J'ai rajouté le militaire Hugh Dowding, le héros de la bataille d'Angleterre, pour son rôle anticonformiste, sa passion pour les sciences. C'est lui qui avait organisé le fameux système de défense britannique contre les bombardements des chasseurs allemands. Et ces 4 personnalités, à contre-courant, originales, pensant profond, très très concentré sur leur sujet, n'ayant pas peur de s'intéresser à ce qui n'intéressait personne, ont joué un rôle majeur en coulisses dans la Seconde Guerre mondiale. Peut-être le plus inconnu des 4 pour le grand public est le 3e, Léo Szilard, physicien juif hongrois de génie, le mot n'est pas exagéré, qui a été l'un des pères de la bombe atomique, puis un militant pacifiste extraordinairement impliqué, et dont toute l'histoire est comme un incroyable roman.
En tout cas, merci beaucoup. Évidemment, j'adore le titre Les Rêveurs Lunaires. Il faut d'abord rêver avant de créer. Merci Cédric Villani. Je rappelle votre BD, donc illustrée par Baudouin. C'est Rêveurs Lunaires, coédité par Gallimard et Grasset. Et je rappelle que vous y réunissez Alan Turing, mais aussi les grands noms de la science que vous venez de citer. Werner Heisenberg, Léo Szilard et Hugh Dowding, le chevalier du ciel.
Oui, Stéphane Bern, vous avez complètement raison. Je veux vous dire juste une anecdote sur Les Rêveurs Lunaires. Quand Léo Szilard s'intéresse à la bombe atomique, c'est le premier à avoir un jour l'idée de la réaction en chaîne, ce que serait le principe d'une bombe atomique. Et comment il a cette idée? Un jour, il voit le transcript d'une conférence qui est publiée dans la presse, une conférence de Rutherford, grand ponte de la physique quantique. Et Rutherford, il dit en réponse à un journaliste, ça sert à rien d'essayer de tirer de l'énergie de l'atome, l'énergie est minuscule. Et quiconque voudrait tirer de l'énergie de l'atome serait alors le mot qu'il emploie en anglais, c'est talking moonshine, parler clair de lune. C'est à la fois une idée de rêverie, mais une idée d'escroquerie en anglais. Mmh. Et Szilard s'est dit, ce vieux crouton de Rutherford, je vais prouver qu'il a tort et je vais la construire. J'ai trouvé le principe de cette bombe. Voilà comment ce qui était une rêverie lunaire, une escroquerie à un moment, devient après quelque chose qui change la face de l'histoire.
Merci beaucoup.
Attendez, je sais qu'on a débordé, mais Cédric Villani, vous avez choisi la politique après les mathématiques. Est-ce qu'il n'y a pas un jour où vous avez envie de créer, par exemple, comme Turing a créé l'ordinateur, vous n'avez pas envie de vous replonger dans les chiffres pour créer quelque chose de nouveau? Est-ce que ça fait partie de vos défis à long terme ou pas?
On a chacun ses zones de spécialité et d'expertise. Le génie d'Alan Turing, c'est qu'il était à la fois extraordinairement bon dans la théorie et extraordinairement bon dans l'ingénierie. C'est à la fois un mathématicien et un ingénieur. Comme l'étaient les autres pères de l'informatique, hein, comme Claude Shannon, comme von Neumann ou comme Norbert Wiener. Moi, je suis plus un théoricien et là où j'ai eu des succès en mathématiques sont sur des problèmes qui réunissaient certains ingrédients, probabilité, géométrie, etc. Mais définitivement, je ne suis pas un constructeur. En revanche, là où j'ai pu avoir du succès, c'est pour mener des ponts entre différentes disciplines, mathématiques et physique, en particulier physique des gaz, physique des plasmas, et puis mathématiques et intelligence artificielle d'un certain point de vue, dans certains sous-domaines. Je n'ai pas le génie mécanique qu'a Alan Turing.
Merci beaucoup, Cédric.
Stéphane, vous voulez un petit bilan de la physique des plasmas, là. J'ai pas tout compris.
Oui, oui.
J'aimerais bien une petite fiche résumée, s'il vous plaît.
Ça concerne votre écran.
Absolument.
16h, 18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Aujourd'hui, dans Historiquement Vôtre, on évoque ces personnages de l'histoire qui combinent insolente jeunesse et insolent génie. Après Voltaire et Alan Turing, Mathieu, vous nous brossez le portrait à 99% vrai de la plus célèbre militante écologiste qui vient seulement de fêter ses 18 ans. J'ai nommé Greta Thunberg.
Oui, Stéphane, une personnalité importante pour moi, puisque de par mes convictions environnementales et mon mode de vie respectueux de toutes les biodiversités, je suis assez proche de la démarche prônée par Greta. Comme elle, depuis 2016, je me déplace plus qu'à vélo. Je me chauffe aux granulés de bois, je recycle l'eau de pluie pour faire ma toilette et un savon bio issu du commerce équitable. Je me fabrique moi-même mon déodorant.
Ah oui, ça sent le Roquefort.
Non, il tient super bien. En revanche, oui, Greta, j'ai honte, mais je travaille avec Stéphane Bern, prototype du baby-boomer totalement hermétique au problème du soi-disant, dirait-il, changement climatique. Oui, Greta, tu serais choquée de le voir arriver chaque matin au bureau en Porsche Cayenne diesel biturbo. Avec son petit macaron critère 17, même les jours de circulation alternée, hein, vitre ouverte, clim à fond, sur le parking d'Europe 1 pour épater les stagiaires parce que, mon Stéphane, le réchauffement climatique et les émissions de CO2...
Ouais, parce que j'en ai rien à foutre.
Quelle honte, si Greta vous voyait, elle vous dirait probablement « Stéphane, du ar en skitstovel ». Une insulte, et croyez-moi, c'est encore plus violent que...
Vous êtes aussi bête que Léon Blum.
Car Greta Thunberg, personnalité de l'année 2019 pour le Times, n'a pas sa langue dans sa poche. À seulement 18 ans, elle est la figure de la lutte contre le réchauffement climatique la plus célèbre au monde, et la preuve vivante, Stéphane, qu'avec du génie, les gens peuvent avoir un impact.
Quelle que soit leur taille.
Et leur âge, surtout. Puisque Greta Thunberg est une militante de la première heure, ses proches disent même qu'elle est née engagée. Son sens de la formule et son goût de la punchline se seraient manifestés dès sa naissance en Suède le 3 janvier 2003, puisqu'elle serait sortie de sa mère en brandissant une pancarte qui disait « Maman est sèche comme la planète ». Bonjour la césarienne, premier acting militant d'une longue série. Bon, ses fans ont peut-être un peu romancé la chose, mais disons que les parents de Greta, la chanteuse d'opéra Malena Ernman et son mari, l'acteur Svante Thunberg, vont vite comprendre que leur fille est un sacré numéro. Quand à 6 ans, ta gamine te fait un caprice, non pas pour le centre équestre Playmobil, mais pour que tu lui installes des toilettes sèches, tu réalises que tu as affaire à quelqu'un de différent. Quand à 8 ans, elle entend parler du problème du dérèglement climatique et qu'elle comprend que les dirigeants ne font pas grand-chose pour y remédier, elle décide d'arrêter de manger de la viande. Constatant le faible impact sur les émissions de CO2 de cette décision individuelle, elle sombre alors dans la dépression. Alors oui, je sais David, on fait tous une dépression un jour ou l'autre, mais avouez qu'à 8 ans, même vous, vous étiez encore inconscient et rieur, occupant vos journées à jouer avec ce petit cube d'amiante que vous aviez gratté dans le grenier. Greta, elle, se referme, cesse de parler et même de s'alimenter. L'année de ses 11 ans, elle perd ainsi 10 kilos en 2 mois. Rapidement, le diagnostic tombe, elle est autiste asperger avec un trouble obsessionnel compulsif doublé d'un mutisme sélectif. Heureusement, cette même année, elle décide de convertir cette indignation qui bouillonne en elle en quelque chose d'utile pour la société. Elle n'en peut plus de la langue de bois des politiques et des messages niais adressés aux jeunes.
La pollution, ce n'est pas bon.
Greta veut bousculer la société, les modes de vie. Cobaye tout trouvé, c'est proche. Fini le diesel pour papa, fini les détergents chimiques pour maman, désormais chez les Thunberg, c'est voitures électriques et savon noir. Sa maman tente de lui expliquer que pour sa carrière de cantatrice, elle est un peu obligée de prendre l'avion parfois. Mais Greta n'accorde aucun passe-droit, même à sa mère, qui met donc fin à sa carrière de chanteuse. Il faut dire que, malgré son jeune âge, Greta en impose par sa détermination et son génie. À 17 ans, elle connaît par cœur les éléments du tableau périodique, ainsi que toutes les capitales de tous les pays du monde. Elle a épluché tous les rapports du GIEC, sait lire la courbe de Killing et expliquer ce qu'est le gaz à effet de serre. Quand on pense qu'à 17 ans, elle sait déjà tout ça, alors qu'à 57, d'autres en sont encore à apprendre l'alphabet.
F-C-Z-P
E-L-O-P Super Stéphane, demain on passera aux voyelles. En 2018, Greta remporte un concours d'essai sur le climat organisé par un petit journal. C'est la genèse de sa carrière d'activiste. Son plan, protester contre l'inaction du gouvernement en séchant l'école jusqu'aux élections générales suédoises de septembre. Des prétextes bidons pour sécher l'école, Dieu sait qu'on en a tous trouvé dans notre jeunesse, mais là c'est hyper malin. Le 20 août, elle poste une photo d'elle sur Instagram assise devant le Parlement suédois, le Riksdag, avec cette légende. Nous les enfants ne faisons généralement pas ce que vous nous dites de faire, vous les adultes. Nous faisons comme vous. Et puisque vous n'en avez rien à foutre de mon avenir, je m'en fous aussi. Ainsi démarre le Skolstretch for Klimatet, pardon pour l'accent, la grève de l'école pour le climat. Mouvement qu'elle prolongera après les élections en ne séchant plus que les vendredis, c'est le début du hashtag Fridays for Future. De même qu'un chaton albinos jouant le générique de Stranger Things au piano, le message politique en plus, Greta devient viral. En décembre 2018, elle prend la parole lors de la COP24 et remet tranquillement en place les dirigeants du monde en leur expliquant qu'ils ne sont pas assez matures pour reconnaître l'urgence telle qu'elle est. Une vidéo qui fera 9 millions de vues sur Facebook. Et en 2019, Greta, qui a la chance d'être surdouée car elle commence à avoir manqué beaucoup de cours, décide de s'offrir une année sabbatique. Non pas pour se taper des mojitos à Punta Cana comme on le ferait tous, mais pour se consacrer à 100% à son combat. Combat qui va l'amener jusqu'à New York, en voilier, Car oui, refusant de prendre l'avion, notre passionnariat écolo a passé 15 jours en mer pour aller les États-Unis depuis l'Angleterre afin de participer au sommet pour le climat organisé de l'ONU. C'est con, à quelques mois près, Zoom lui aurait permis de s'épargner ce fastidieux périple. Mais la médiatisation de cette odyssée verte lui permet d'atteindre le million d'abonnés Instagram et d'être sacrée par le Times personnalité de l'année. Elle est aujourd'hui à plus de 10 millions d'abonnés sur Insta et 4,6 sur Twitter. Stéphane, je veux pas vous mettre la pression, mais vous stagnez à 472 000. C'est le problème des jeunes. Ils sont plus sensibles au dérèglement climatique qu'à la déliquescence des gentilhommières bourguignonnes du XVIIe siècle. Alors, je sais ce que vous dites de Greta, Stéphane.
Salope.
Non. Oui, mais quand vous affinez votre pensée, vous dites, à son âge, faire tout ça, elle est forcément manipulée. N'ayez pas honte de le penser, Stéphane, vous n'êtes pas le seul. Beaucoup de gens sont agacés par Greta Thunberg. Bon, surtout de vieux hommes blancs de droite qui contre-argumentent rarement sur le thème du réchauffement climatique lui-même, mais qui affirment que Greta serait manipulée par ses parents, qu'elle est autiste et donc folle. Les meilleurs arguments étant qu'elle est communiste et qu'elle s'habille mal. Preuve que s'il est urgent de se débarrasser des énergies fossiles, il est aussi vital de se débarrasser des fossiles tout court. Bien sûr, la planète se réchauffe toujours inexorablement, mais il y a quand même un effet Greta très sérieusement mesuré. Une étude scientifique a démontré que ceux qui sont familiers de la cause de Greta Thunberg ont plus tendance à mener des actions afin de réduire le réchauffement climatique. Cette même étude n'a pas précisé si un effet Kim Kardashian existait et s'il avait encouragé plus de personnes à faire tenir une coupe de champagne sur leurs fesses. En attendant, Kim K, elle, n'a pas un timbre à son effigie, contrairement à Greta, que vous pouvez désormais lécher par derrière. Depuis le mois dernier, un très joli carnet intitulé « Nature précieuse », comme je sais que vous êtes un collectionneur, Stéphane, je vous en ferai envoyer un petit exemplaire. Combien touche-t-elle sur la vente de cet timbre? Je ne sais pas, mais vous faites pas de bille pour elle. D'après le magazine économique américain People with Money et sa très attendue liste des militantes les mieux payées au monde, publiée le 3 février dernier, Thunberg aurait amassé entre les mois de janvier 2020 et janvier 2021 la prodigieuse somme de 46 millions d'euros sonnant et trébuchant des revenus issus de partenariats publicitaires et de royalties. D'après les calculs, la militante entrepreneuse pèserait près de 145 millions d'euros. Outre ses gains professionnels, elle devrait son immense fortune à de judicieux placements boursiers, un patrimoine immobilier conséquent et le très lucratif contrat publicitaire avec les cosmétiques CoverGirl. Elle posséderait également plusieurs restaurants à Stockholm, un club de foot à travers une société écran, serait également impliquée dans la mode adolescente avec une ligne de vêtements Thunberg Séduction, ainsi qu'un parfum L'eau de Greta. Vous ne tiquez pas, Stéphane, je continue.
Vous voulez dire qu'on est entré là dans le 1% de faux? Vous inventez vraiment n'importe quoi, Mathieu.
Sauf que, hélas, je n'invente pas, Stéphane. Greta Thunberg, multimillionnaire, c'est évidemment faux, mais ce n'est pas moi qui ai inventé ces chiffres farfelus. En fait, c'est même le premier article que vous trouvez sur le net quand vous tapez Greta Thunberg et qu'on vous propose automatiquement d'y accoler le mot « argent ». C'est dire si la jeune militante en crispe certains, qui sont visiblement prêts à dire et écrire n'importe quoi pour la décrédibiliser. Bref, entre deux tweets incisifs, il serait temps que Greta fasse le ménage sur sa page Wikipédia. Ça vaut pour vous aussi, Stéphane, je vous ai envoyé un petit SMS là-dessus l'autre jour, à moins que vous soyez vraiment un descendant de Robespierre, comme l'affirme à ce jour, votre page Wikipédia à vous, il faut faire le ménage. Bon courage Greta, il t'en faudra, car en dépit des preuves qui s'accumulent, il y aura toujours des boomers bornés pour penser que le réchauffement climatique est un hoax, et des gens très bien pour dire...
Normalement, je ne suis pas complotiste, mais là, je suis obligé.
Eh oui, attention Greta, il y a encore du boulot.
Merci beaucoup Mathieu, évidemment... Ce qui est faux, c'est ce qui me concerne.
Ah, sauf votre page Wikipédia, Stéphane, allez vérifier.
Oui.
Vous allez avoir plusieurs surprises, à mon avis.
Ah oui,
moi qui vous connais un peu, à mon avis, on est plus que 99% vrai. On est plus dans le 99% faux.
Ah oui, c'est dingue, ce que les gens... Parce que c'est... Et puis, si jamais vous allez corriger, on vous dénonce comme hacker, en fait.
Eh ben oui. Ah oui, c'est vrai. Oui. Moi, j'ai voulu corriger ma propre page.
Oui, on ne peut pas corriger ça. Oui, exactement. En tout cas, c'était passionnant. Merci, Mathieu Noël, pour ce portrait de Greta Thunberg.
Europe 1, historiquement vôtre.
C'est un peu écœuré que nous disons adieu à nos personnages du jour. Ces génies, qui en plus d'être géniaux, étaient jeunes.
Mais rassurez-vous Stéphane, c'est rare. La plupart des gens ne sont ni jeunes, ni géniaux. J'en veux pour preuve, Olivier Pouls et David Castello-Lopez. Mmh. Olivier, vous êtes avec nous.
Oui, mais il a du génie quand il fait les truffes
un génie
au chocolat. Là, c'est un génie culinaire, oui.
Alors, ni truffes d'été, ni truffes d'hiver. Aujourd'hui, des truffes en chocolat, Olivier.
Bah oui, les truffes en chocolat et la recette qui va avec. Et vous allez voir que cette recette a du génie parce que même vous, Mathieu Noël, le pire cuisinier que je connaisse, êtes capable de les réussir.
C'est vraiment une ordure quand même, le pire cuisinier carrément.
Ouais.
Le mot de la fin, Stéphane, il vous reviendra évidemment.
Mais d'où vient l'expression « l'habit ne fait pas le moine » ?
L'habit ne fait pas le moine, mais certainement dans le moine, je vais vous dire.
Oui.
À mon avis, c'est ça.
Je pense que c'est un franciscain.
Ah, vous êtes plus précis dans votre analyse.
Ah oui, je fais durer le suspense jusqu'après la chronique que vous attendez tous, celle de David Castello-Lopez.
Particulièrement aujourd'hui, puisqu'on va revenir aux origines du mini-golf.
Oui, tout à fait. C'est assez rigolo de voir que la plupart des sports nobles et populaires, ils ont été déclinés dans une version plus petite. petite et moins sérieuse. Vous voyez, il y a le, pour le foot, il y a le baby foot, pour le tir à l'arc, il y a les fléchettes, pour la course automobile, il y a le karting, pour le golf, il y a le mini golf. Alors, quelquefois, la version petite a obtenu des titres de noblesse un peu propres, comme le tennis de table. Vous voyez, ouais, qui est une sorte de déclinaison du tennis et qui est un sport olympique quand même. Mais pas le mini-golf, qui reste dans l'ensemble tout de même une sorte de blague par rapport au vrai golf. Moi, mes souvenirs du mini-golf, c'est un mélange d'émerveillement, surtout quand la balle, elle doit passer sous le moulin, là. Trop marrant, là, c'est marrant. Et aussi, un peu de haine quand même, quand la balle, elle, elle bute 20 fois comme une conne contre le muret qu'il faut éviter. Voilà. Donc ça, c'était un petit peu ambivalent face au mini-golf. Mais donc, tout ça, de toute façon, ça m'a donné envie, comme à chaque fois, de savoir d'où ça venait. Bon, déjà, le golf moderne, en gros, probablement né en Écosse au 15e siècle.
Le vrai golf.
Le vrai golf, celui est de taille normale. Mais il s'est popularisé que depuis la seconde moitié du 19e siècle. Et comme la plupart des sports pendant longtemps, c'était une activité d'hommes. Et une activité qui déclenchait de telles passions chez les hommes qu'on a commencé à parler de golf widows. Golf widows, ça veut dire les veuves du golf. Et ça désigne les femmes dont les maris jouent tellement au golf que du point de vue de leur présence conjugale, c'est comme s'ils étaient morts. Voilà. Et selon certaines sources, les origines du mini-golf moderne, c'est là qu'il faut aller les chercher. En gros, à partir du début du 20e siècle, il y a eu des essais de mini-golf aux États-Unis et en Angleterre. Mais c'était juste un golf plus petit. Or ça, ce n'est que la moitié de la définition du mini-golf moderne. L'autre moitié, ce sont les obstacles, les tunnels, les mini-moulins, tout ça. Et ça, c'est un monsieur qui s'appelle Garnet Carter qui l'a inventé à la fin des années 1920. Alors pourquoi il l'a inventé? Eh bien, selon sa femme Frida, c'est précisément pour que les golf widows s'amusent pendant que leur mari jouait au vrai golf. En tout cas, l'invention de Garnett, il y a vraiment une sorte de folie du mini-golf qui l'a suivi, parce que le mini-golf, ça a vraiment explosé, et ça a explosé à un moment très précis aux États-Unis, en tout cas dans les 6 premiers mois de l'année 1930. En août 1930, il y a eu un recensement qui a compté 25 000 terrains de golf aux États-Unis, dont la moitié avait été construit depuis le début de l'année. Voilà, c'est 6 mois de une sorte de virus, voilà. Alors ça c'est calmé un petit peu depuis aujourd'hui aux États-Unis, ils comptent beaucoup les États-Unis, c'est toujours bien, donc du coup on a des chiffres. Aux États-Unis aujourd'hui, il y aurait plus que 5000 terrains de mini-golf. Vous vous souvenez que je vous ai dit que le mini-golf c'était une version un peu blague du golf?
Oui.
Et ben pas pour tout le monde, puisqu'aujourd'hui il y a un championnat du monde de mini-golf. Et je dois dire que c'est assez intéressant à regarder parce que je veux dire l'ambiance du mini-golf pour moi, c'est plutôt on rigole, on fait des blagues tout ça, mais là ça déconne pas, hein, c'est-à-dire que les gars, ils sont concentrés devant leur petit moulin avec la balle comme des chirurgiens qui font un double pontage. Donc tout ça pour dire que peut-être qu'un jour il y aura le mini-golf aux Jeux Olympiques, hein, peut-être comme le tennis de table.
Et ce qui est stressant en mini-golf, c'est quand il y a beaucoup les jours d'affluence.
Oui.
Avant le Covid, tout ça, les jours d'affluence. Quand tu joues avec ton petit groupe d'amis et qu'il y a des gens derrière qui sont meilleurs que toi, ils vont plus vite, ils finissent plus vite le trou derrière, si j'ose dire. Et donc, nous, on est pressés, ils regardent et tout le monde se met autour de toi. Et donc toi, t'as le stress. Vous avez jamais joué, Stéphane, au mini-golf? J'ai l'impression que ce que je vous dis, c'est du chinois.
Non, je joue au golf.
Mais du coup, on fait le trou numéro 16 et on revient. Enfin, ils peuvent aller au trou d'après et revenir à celui d'avant. Ils font ça.
Ah non, moi, ils attendent. Ils me mettent la pression. Ouais. Ils sont là, ils soufflent, ils font.
En tout cas, merci beaucoup, David Cassius-Lopez. On peut retrouver évidemment les originaux en podcast sur toutes les applis audio et naturellement sur le site europe1.fr.
Après un bon mini-golf, c'est souvent l'heure du goûter. Et pour le goûter, que diriez-vous de truffes au chocolat? Mais d'où viennent-elles? Olivier Pouls nous le raconte.
16h-18h sur Europe 1, historiquement vôtre.
C'est l'heure de retrouver notre expert gastronomique Olivier Pouls pour l'histoire d'une recette, d'un petit plat qu'on aime bien aujourd'hui, une petite sucrerie, une petite gâterie, Olivier, les truffes au chocolat.
Oui, et encore aujourd'hui, une recette qu'on peut dater précisément et attribuer précisément. Voyez-vous, vous n'allez pas encore me reprocher d'être un peu flou, parce que dans un instant, je vais vous dire où et qui a inventé la truffe en chocolat. Mais auparavant, il faut que je rappelle quand même que le chocolat fait son apparition en France au XVIIe siècle, hein, dans les années 1615. Longtemps, il sera consommé presque exclusivement en boisson, avant d'être consommé sous une forme solide un peu plus tard. C'est le XIXe siècle, hein, avec l'industrialisation qui va réellement populariser le chocolat. Et puis là, nous sommes en décembre 1895. Louis Dufour est un confiseur, il est installé à Chambéry et il est en pleine confection de ses gourmandises de Noël. À l'époque, les gourmandises de Noël, c'est pas du chocolat, mais ce sont plutôt des fruits confits, manque de peau. Eh bien, il n'a plus assez de matière première et comme il a une certaine fierté, il n'a pas envie d'aller demander à son voisin de le dépanner. Donc, il a une idée, il se dit, bah, tiens, je vais inventer quelque chose de différent avec ce que j'ai dans mes frigos. Alors il lui vient l'idée de mélanger de la crème fraîche, de la vanille, du cacao. Il forme le tout en petites boulettes qui sont plongées dans du chocolat fondu, enrobées de poudre de cacao. Et voilà, il invente la truffe au chocolat qu'on appelle à l'époque truffe de Chambéry ou bonbon au chocolat.
Et elle est comme celle d'aujourd'hui.
Elle est presque comme celle d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on la travaille, je vais vous donner la recette dans un instant, à base de ce qu'on appelle une ganache, hein, c'est-à-dire un mélange de chocolat et de crème fraîche avec éventuellement un petit peu de beurre. Mais il faut savoir que ces truffes, elles vont être popularisées dans le monde et dans l'Europe entière grâce notamment à son frère Antoine, qui lui va ouvrir au début du XXe siècle une boutique à Londres qui s'appelle Presta, et je crois qu'elle existe toujours d'ailleurs, et qui va faire la popularité outre-Manche de ces petites truffes en chocolat. Il faut savoir que Roald Dahl, vous savez qui est Roald Dahl ?
Roald Dahl ?
Oui.
L'auteur ?
Oui, c'est l'auteur de Charlie et la chocolaterie. Ben, il était notamment client de cette chocolaterie londonienne. Alors peut-être est-ce là qu'il a eu l'idée d'écrire le scénario de ce qui va devenir notamment un film très populaire et très connu. Alors, il faut savoir que l'appellation truffe au chocolat est protégée aujourd'hui en France. Hein, il faut qu'elle contienne 25% de chocolat, 1 gras d'origine animale. Et sinon, si ce sont des truffes industrielles, parce qu'il y en a quand même beaucoup, et notamment à l'huile de palme, et je vous les déconseille, elles ne peuvent pas s'appeler truffe au chocolat, elles doivent s'appeler truffe fantaisie.
Ah, c'est bien cette législation.
Ouais, c'est bien, c'est
protégé. Et alors, comment on réalise ces truffes?
J'ai envie de refaire la recette.
Alors, pour une recette proche de la recette originale et très, très facile à faire. Enfin, franchement, c'est un truc qu'on peut faire avec des enfants. Le week-end prochain, par exemple, faites atelier truffe au chocolat à la maison. C'est inratable. Vous allez donc constituer ce qu'on appelle une ganache. Donc, 180 grammes de chocolat de couverture, hein, du chocolat noir. 100 grammes de crème fraîche liquide entière. Une petite cuillère à café de miel pour donner un tout petit peu de moelleux à tout ça. Et puis, évidemment, du cacao en poudre. Alors, la technique, c'est très simple. Vous faites chauffer la crème avant ébullition. Donc, il faut qu'elle soit autour de 70-80 degrés. Vous allez à ce moment-là hacher finement le chocolat à température ambiante. Vous mélangez le tout avec du miel. Vous étalez donc cette ganache sur un papier sulfurisé que vous allez laisser reposer pendant 2 à 3 heures dans un endroit frais, pas au frigo. Un endroit frais, parce qu'au frigo, elle deviendrait trop dure. Bah, après ça, il reste plus qu'à former vos petites truffes. Alors, soit des petits carrés, soit des petits ronds. Attention, si vous le faites à la main, par exemple, de pas trop les chauffer, hein. Donc, faut vraiment y aller doucement. Et puis, ben, on les refroidit dans le frigo, on les roule dans le cacao. Et hop, c'est parti. Vous avez vos truffes au chocolat. Ça, c'est une version facile. Une version un peu plus compliquée qui consiste à tremper ces truffes dans un chocolat fondu avant de les enrouler dans le cacao. Mmh. Mais franchement, juste une ganache au chocolat roulée dans un bon cacao amer, ça marche extraordinairement bien.
Le pire cuisinier du monde a néanmoins une question technique. Je suis désolé, mon cher Olivier, mais le miel, vous nous dites de mettre du miel. Mais j'imagine que c'est pas n'importe quel miel, parce que si vous mettez un miel trop fort...
Il en faut vraiment très peu. Le miel, il va juste donner une petite douceur, il va arrondir. Prenez un miel plein de fleurs, multifleurs. Ça ira très bien, il n'y a pas besoin d'avoir un miel spécifique. Alors certains rajoutent aussi dans la ganache un petit peu de beurre. Moi j'aime bien qu'on soit très proche du chocolat avec un goût, presque un peu de cette amertume du chocolat que j'adore. Donc moi je me dispense de beurre, mais si vous voulez rajouter un petit 10-15 grammes de beurre, vous pouvez le faire aussi.
Restons très proche du chocolat, c'est une belle devise.
Le cri du cœur d'Olivier Pouls.
Vous serez entendu Olivier. Merci Olivier, on retrouve toutes vos recettes évidemment et toutes vos histoires de recettes sur le site d'Europe1.fr. L'heure est bientôt venue d'entendre le mot de la fin, l'histoire d'une expression par Stéphane Bern. Aujourd'hui, Stéphane,
l'habit ne fait pas le moine.
16h-18h sur Europe 1.
Historiquement vôtre.
L'heure du mot de la fin a sonné. On devrait avoir d'ailleurs un ding-dong, une cloche. On n'a pas cet effet spécial, ça doit être trop coûteux probablement. Stéphane Bern, aujourd'hui, l'histoire d'une expression, comme d'habitude... Aujourd'hui,
l'habit ne fait pas le moine. Oui, c'est un adage très connu, je l'explique pour les plus jeunes fans de Mathieu Noël qui nous écoutent. Il signifie « méfions-nous des apparences ».
Et c'est vrai, la preuve avec vous Stéphane, quand on vous voit la première fois, on dit « tiens, voilà un royaliste ». Mais finalement, avec le temps, on découvre que vous êtes très bien accommodé de la démocratie finalement. Vous tolérez ce régime-là.
Même j'y suis très attaché.
Ah, vous êtes même attaché maintenant, comme quand on se trompe, voilà, l'habit ne fait pas le moine. Quoi.
Oui, ben, c'est ça. J'étais content de vous retrouver cet après-midi, Mathieu, mais bon, c'était avant que vous sortiez toutes ces bêtises. Au XIIIe siècle, on trouve la trace de l'expression. Elle serait la traduction de la formule latine « barba non facit philosophum ». Ce n'est pas de moi, c'est du Plutarque. Pour résumer, ça signifiait que la barbe ne faisait pas le philosophe. Mais Moi, je plaide pour une autre origine. L'abbé ne fait pas le moine viendrait de François Grimaldi, François dit le malicieux, cousin de Régnier Ier, descendant de la famille qui règne encore sur le rocher d'Hercule à Monaco. Il s'empare du rocher en janvier 1297 grâce à une ruse. Il se déguise, lui et sa petite armée génoise, en moine franciscain. Il demande l'asile et la nuit durant, il refait le coup du cheval de Troie. Et d'ailleurs, sur les armoiries de la famille princière de Monaco, on trouve deux moines avec des épées pour se souvenir de ce haut fait d'armes. Et en effet, sur ce coup-là, l'habit n'a pas fait le moine. La dernière explication peut nous éclairer sur la formule, car ces derniers n'ont pas toujours été d'une grande exemplarité. Le pape Grégoire IX, au XIIIe siècle, en utilisant l'expression, rappelait que tous les moines n'avaient pas forcément un comportement idoine. Portés sur la chose, vous voyez ce que je veux dire,
oui, j'ai compris.
Cupides, violents, tous n'étaient pas des saints, loin de là. Allez, terminons sur une jolie citation sur les habits, elle est de Jean Rochefort. « J'aime l'habit confortable, mais j'ai la trouille de la charentaise. » En disant cette phrase, on l'entendrait presque, non?
Les amis, je crois qu'un nouveau numéro d'Historiquement Vôtre se termine. Il était peut-être jeune et géniaux, mais ils sont morts. Voltaire et Turing vous ont passionné, Stéphane, mais je sens que Greta Thunberg vous laisse plus songeur. Vous faites partie de ceux qui pensent qu'elle est un peu manipulée ou non?
Non, moi je trouve que toutes les voix qui s'expriment pour défendre la planète et nous alerter sur le réchauffement climatique sont des voix utiles et donc elle a raison de le faire.
Nous sommes d'accord sur un point, Stéphane, aujourd'hui. Vous connaissez déjà le programme qui nous attend demain?
Oui, demain, Mathieu, on réunit trois personnages qui ont été empoisonnés. La favorite Agnès Sorel, alors qu'on ne le savait pas, le dissident Georgi Markov, empoisonné par les services secrets bulgares d'une étonnante manière, vous allez voir.
Ça a l'air de vous plaire déjà.
J'adore les empoisonnements.
Moi, je vous parlais du chanteur Robbie Williams, qui ne fait rien comme tout le monde. Il n'a pas été empoisonné, il a été empoisonné. C'est une variante, vous allez voir, c'est étonnant. C'est une intoxication au mercure, il a failli y passer, notre beau Robbie.
Ah là là, alors à demain.
Retrouvez Historiquement Vôtre tous les jours de 16h à 18h sur Europe 1 et en podcast sur Europe 1.fr.